Radio Prague, les informations.
L'ex-premier ministre Mirek Topolánek croit que la ratification du traité de Lisbonne sera menée à bien. Jerzy Buzek, président du Parlement européen, se rendra la semaine prochaine à Prague. La semaine des bibliothèques commence ce lundi. Mirek Topolánek, ex-premier ministre et chef du principal parti de droite Lodes, croit que la ratification du traité de Lisbonne sera menée à bien et que le président Václav Klaus confirmera formellement la volonté du Parlement. Il a déclaré ce dimanche dans un débat télévisé. Václav Klaus a refusé de commenter le résultat du référendum irlandais tout en ajoutant qu'il le respectait. La République tchèque et la Pologne sont les seuls pays n'ayant pas encore achevé la ratification du traité. Les yeux de l'Europe sont dès maintenant braqués surtout sur la Tchéquie, car le président polonais Kaczyński a exprimé sa volonté de signer le document la semaine prochaine. La Tchéquie attend pour sa part le verdict de la Cour constitutionnelle qui doit s'exprimer sur un recours déposé par des sénateurs tchèques sur le traité. Le président du Parlement européen, Jerzy Buzek, se rendra vendredi prochain en République tchèque. Ses conversations avec les hauts représentants du pays porteront sur la ratification du traité de Lisbonne en Tchéquie. Une entrevue avec le président Václav Klaus n'a pas encore été confirmée. Selon le porte-parole de Jan Fischer, la visite de Jerzy Buzek est prévue depuis un certain temps déjà et ne traduit pas la volonté de faire une pression sur la ratification. Le premier ministre suédois Fredrik Reinfeldt a annoncé qu'il invitait son homologue tchèque Jan Fischer et le président de la Commission européenne José Barroso à une réunion à Bruxelles qui devrait se dérouler mercredi prochain. Mirek Topolánek a convoqué pour ce lundi une rencontre des chefs des principaux partis politiques. Ils sont appelés à se pencher sur le futur exercice et les priorités de programme du cabinet de Jan Fischer. Le chef de file du Parti social-démocrate, Jiří Paroubek, a confirmé ce dimanche qu'il n'avait pas l'intention de prendre part à cette rencontre. Des interrogations planent sur la participation du Premier ministre Jan Fischer et sur celle des représentants des Verts. Au début de la semaine prochaine, le président tchèque Václav Klaus se rendra à Tirana. Ce sera la deuxième visite au plus haut niveau effectuée en Albanie par un représentant tchèque. La semaine des bibliothèques s'ouvre ce lundi. Plus de 400 bibliothèques sont impliquées dans ce traditionnel projet qui a pour objectif de favoriser la lecture, les bibliothèques publiques et les belles-lettres, ainsi que d'offrir d'intéressants programmes d'accompagnement. Météo ce lundi, jour de fête de toutes les Eliska, le ciel demeurera à moitié dégagé, à couvert, avec par endroits de fortes rafales de vent. Les températures se situeront autour de 14 degrés. C'était le journal présenté par Alana Gebertova. Ah!
Culture sans frontières. Anna Kubista.
Bonjour. Nul n'est besoin de rappeler l'importance des liens qui unirent les artistes tchèques, voire tchécoslovaques, et les artistes français dans l'entre-deux-guerres. Malgré les accords de Munich en 1938, où la France ne brilla guère par son courage à défendre son allié, de nombreux artistes trouvèrent refuge dans l'Hexagone. C'est à cette période de la Deuxième Guerre mondiale et aux artistes tchèques en France que s'est intéressée l'historienne d'art Anna Pravlova dans un très bel ouvrage intitulé « Rattrapé par la nuit, les artistes tchèques en France, 1938-1945 ». À côté de František Kupka, Adolf Hofmeister, Otakar Kubin, Josef Šíma, Alen Divish, Anna Pravlova fait revivre des noms peut-être moins connus des arts plastiques tchèques. Elle s'est notamment intéressée à une jeune artiste juive, sourde-muette, Edita Hiršová, qui signait ses œuvres surréalistes du pseudonyme Tita et qui connaîtra le destin tragique de millions d'autres juifs à Auschwitz. Anna Pravlova est l'invitée de cette émission culturelle.
Thank you. Anna Pravdova, vous êtes historienne de l'art, conservatrice à la Galerie Nationale et vous venez de publier un livre, un très beau livre qui s'intitule « Les artistes tchèques en France pendant la Seconde Guerre mondiale » en gros. Pourriez-vous nous présenter un peu ce livre ?
Alors ce livre s'intéresse aux artistes tchèques qui ont soit vécu en France depuis longtemps et ont été attrapés par la guerre en France ou à Paris. Et aux artistes qui ont dû fuir la Tchécoslovaquie occupée par les Allemands et qui se sont retrouvés à Paris, soit par hasard, soit parce que ils étaient francophiles déjà avant la guerre, ils avaient des contacts à Paris ou voilà. Donc tous ces artistes qui se retrouvent à Paris en 39, comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour leur pays, etc. C'est de ça que ça parle.
Alors vous commencez évidemment par le choc des accords de Munich, puisque comme vous dites, la plupart ou une majorité d'entre eux étaient des artistes tchèques qui étaient en général francophiles. Je pense notamment à Jan Zarzavi, son histoire est particulière aussi, puisque lui décidera de ne jamais revenir en France.
Oui, ça c'est un cas vraiment extrême, parce que Jan Zarzavi était vraiment un grand francophile. Il avait acheté une maison en France dans l'entre-deux-guerres. Il allait très, très régulièrement à Paris, il exposait au salon parisien. Et pour lui, c'était vraiment une très forte déception, les accords du Munich. Et il décide effectivement de ne plus retourner en France. Mais il y est retourné quand même une fois, mais il écrit de là-bas qu'il... Malgré tout, il ne peut pas oublier les accords du Munich, etc. Donc c'est resté une blessure assez profonde. D'autre côté, d'autres artistes qui sont partis à Paris juste après les accords de Munich ont assez vite oublié, entre guillemets, mais se sont retrouvés justement entourés d'intellectuels français de gauche qui eux-mêmes étaient contre les accords de Munich et ont été soutenus par ces gens-là. Donc pour eux, c'était un peu plus facile de garder leur francophilie.
Pourquoi ces artistes s'installent-ils en France plutôt qu'aux États-Unis, puisque finalement la guerre, on peut dire, bon, ils ne le savaient pas sur le moment, mais la guerre finit par approcher et la France était menacée d'une certaine façon aussi.
Ben, ils auraient aimé tous s'installer aux États-Unis, mais ils ont mis beaucoup de temps à pouvoir quitter la France, justement. C'est-à-dire jusqu'à la déclaration de la guerre, ils se sentaient sans doute en sécurité en France. Mais après, ils essayaient tous à fuir la France. Quand l'armée allemande approchait, ils ont descendu dans la zone libre, à Marseille, etc. Mais ils ont mis plusieurs années à obtenir les visas ou à trouver de la place sur un bateau qui pourrait les amener soit à Lisbonne et ensuite aux États-Unis, soit au Maroc et ensuite aux États-Unis, etc. C'était très très difficile.
Ceux qui restent en France, qui ne peuvent pas partir, que font-ils en France ? Est-ce qu'ils se cachent ? Est-ce qu'ils arrivent un petit peu à vivoter par des petits boulots ? Est-ce qu'ils créent ?
Ceux qui restent, alors il y en a qui se sont engagés dans l'armée tchécoslovaque, par exemple, mais bien sûr, ceux-là ont ensuite, avec la capitulation de la France, l'armée était dissoute. Donc ceux-là, soit ils essayent de partir comme tout le monde, soit il y en a qui sont restés en France et se sont engagés dans la résistance et ont participé au groupe de la France libre, etc.
Vous avez des exemples, des noms ?
Oui, alors Zdeněk Přibyl, par exemple, qui a dessiné le drapeau de sa troupe dans la résistance. Jan Vlach, sculpteur, qui a fabriqué, a priori, les premiers tampons des FFI et d'autres groupes de résistance, etc. Donc, Shima aussi était dans la résistance. Il a fait fonctionner comme une sorte d'agent de liaison entre différents groupes dans le sud de la France, etc.
Dans ce milieu tchécoslovaque en France, quel est le rôle de František Kupka ? On sait qu'il avait été très important pendant la Première Guerre mondiale, notamment parce qu'il a soutenu une Tchécoslovaquie libre et indépendante. Quel est son rôle pendant la guerre et par rapport à ses collègues artistes tchécoslovaques qui arrivent en France ?
Son rôle par rapport aux artistes qui arrivaient en France était surtout celui de professeur entre guillemets de l'école des Beaux-Arts. Il exerçait ce rôle jusqu'à l'occupation allemande, donc il s'occupait des étudiants tchèques qui venaient à Paris. Il a dû arrêter cette fonction avec l'occupation et ensuite il a proposé ses services. Il voulait s'engager, mais il était trop âgé, mais il a proposé ses services à l'ambassadeur tchécoslovaque à Paris, Stefan Osuski, en disant « je suis disponible pour créer ou diriger une section de propagande, etc. » Il voulait mettre son talent au service de son pays comme il pouvait.
En France, quel est un peu le moyen qu'ont ces artistes de s'engager pour, disons, la défense de leur pays depuis l'extérieur. Est-ce qu'ils créent des journaux? Est-ce qu'ils créent des institutions de résistance écrite ou artistique?
Alors, il y a eu plusieurs choses qui se sont faites. La première, c'était... Adolf Hofmeister, qui a été un petit peu initiateur et un peu le chef de file de la Maison de la Culture tchécoslovaque, qui a été créée à Paris pendant l'été 39 et qui devait servir justement d'un centre culturel de résistance, organiser différentes actions pour soutenir le pays, etc. Il a prévu de créer un journal, il voulait lancer une radio qui diffuserait vers la Bohème occupée, etc. Malheureusement, après le pacte germano-soviétique, tous les intellectuels ou les gens de gauche ont été suspects en France et tous les habitants de cette maison ont été arrêtés et emprisonnés pendant 6 mois à la prison de la santé. Et après, ils ont été mis dans des camps d'internement et ensuite, ils ont pu quitter la France. Donc, cette maison n'a duré que quelques mois. À côté de ça, il y avait un groupe d'artistes tchécoslovaques qui s'est créé à l'initiative du peintre Matoušek. Et ceux-là, ils ont créé aussi ils ont fait différentes expositions et publications pour soutenir la Tchécoslovaquie, dont un album de gravure auquel ont participé des grands artistes comme Chagall, Picasso, etc., et qui ont vraiment exprimé leur soutien à la Tchécoslovaquie occupée. Donc, et après, il y avait un groupe d'étudiants qui ont fondé une sorte de comité intellectuel tchécoslovaque aussi, qui voulait soutenir les intellectuels qui venaient de la Tchécoslovaquie occupée, qui étaient un peu perdus en France, mais eux aussi, ils ont été arrêtés et donc leur action était empêchée par la police.
Est-ce que ces artistes en France ont l'occasion quand même de créer? Est-ce que vous avez un petit peu intégré dedans dans votre livre des œuvres qu'ils ont confectionnées, qu'elles soient d'ailleurs, j'allais dire, patriotiques ou pas?
Je me suis surtout intéressée à leur destin, mais bien sûr on ne peut pas le séparer de leur œuvre. Alors j'ai reproduit plusieurs tableaux d'Alain Givish qui n'ont pas été réalisés précisément en France, mais ont été faits après qu'il a quitté la France aux États-Unis et qui sont très fortement marqués par son séjour en prison en France. Et sinon, parmi les autres œuvres que j'ai reproduites, donc c'est les œuvres réalisées en France à cette époque. Il y a plusieurs tableaux Chima qu'il a réalisé quand il s'est réfugié dans le sud de la France et qui sont très marqués par l'époque. Il y a quelques dessins de Rudolf Kundera, notamment les dessins des soldats sénégalais les croquis qu'il a dessinés pendant la libération de Marseille. Il y a un dessin de Zdeněk Přibyl qu'il a réalisé dans le camp de Gurs, où il a été interné en tant qu'interbrigadiste, comme tous les autres interbrigadistes qui ont fui l'Espagne et qui en France se sont retrouvés dans des camps. Il y a une reproduction d'une toile de Kupka de 39, un tableau qui représente l'ambassadeur Osuski qui défend la légation tchécoslovaque et qui ne veut pas la livrer aux Allemands, qui la réclame en tant que maintenant... entre guillemets propriétaire du pays et donc de tout ce que lui appartenait. Voilà, c'est un peu l'éventail des images du livre.
Vous parliez de Alain Divich. C'est un tableau de Alain Divich qui se trouve en couverture de votre livre. Est-ce que vous pourriez un petit peu le décrire?
C'est un tableau qu'Alain Divich a réalisé suite à son séjour à Paris. Il s'appelle Sous les toits de Paris. Et c'est un peu une vision de Paris pendant la guerre. C'est un tableau qui se trouve à la Galerie Nationale et qui me paraissait être vraiment emblématique un peu de cette période des artistes tchèques en France.
La guerre s'achève, hein. Que se passe-t-il? Est-ce que ces artistes tchèques qui sont réfugiés en France restent en France, retournent au pays pour le reconstruire?
Alors la majorité quand même reste en France, mais ont eu des fonctions importantes à Paris. Par exemple, Joseph Chima a été nommé une sorte d'attaché culturel et il a organisé plusieurs expositions d'artistes tchèques à Paris juste après la guerre. Adolf Hofmeister est nommé l'ambassadeur de la Tchécoslovaquie à Paris juste après la guerre. Donc ces artistes ont été impliqués assez vite dans la vie politique tchèque, même si très vite ils l'ont aussi quitté après aux événements, au putsch communiste, etc. Mais donc ils ont été très actifs pour continuer les relations franco-tchèques après la guerre. Ils ont été partie prenante.
Est-ce qu'il y en a qui sont rentrés en Tchécoslovaquie et qui auraient eu des problèmes à cause de leur séjour en France après le putsch communiste?
Alors par exemple, Zdeněk Přibyl et Imre Weinerkrát, qui est un peintre slovaque, ils ont dû, ils auraient aimé rester en France, mais ils ont dû la quitter suite à une expulsion, maintenant je ne veux pas me tromper, mais suite à une expulsion d'ambassadeurs français de la Tchécoslovaquie, il y a un groupe d'artistes ou d'intellectuels tchèques présents à Paris qui ont été expulsés de France, dont ces deux artistes, et donc ils ont dû retourner ici, et je pense que leur vie n'a pas été facile, parce que comme tout le monde qui a eu des contacts en Occident, ils ont été suspects et mis un peu à l'écart.
Merci Anna Plavlova.
De rien.
C'était l'historienne d'art Anna Pravlova qui présentait son ouvrage paru aux éditions Opus et consacré aux artistes tchèques en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc. Jarka Gregorova.
La course hippique de Galo, le 88e prix Renault Saint-Venceslas, journée de course Znovinsnojmo, s'est tenue le 27 septembre dernier à l'hippodrome de Velká Chuchle. La première place du 88e prix Renault Saint-Venceslas a été enlevée par Eddie Gio, montée par le jockey Jiří Chaloupka, qui avec Václav Jaránček fait partie du top des jockeys tchèques actuels. L'organisation de la journée hippique, dont le partenaire général est la société Renault, a été prise en main par la direction de l'hippodrome de Velká Chuchle et Hellas New Encounters Club de l'agence Hellas.
Tak bych nazýval svět. Uličkou, uzoučkou, každý má v něm běžet. Uličkou, uzoučkou, po tvrdém kamení. Po cestě jediné, ať jasné je, kdo je první. Na koňských dostězích, bez práva.
On écoute le directeur de l'hippodrome de Velká Chuchle, Petr Klaroš.
La société Renault est le partenaire général des courses hippiques de la 88e Saint-Venceslas prix Renault. Est-ce que ce fait est habituel d'avoir un partenaire général français ?
Non, ce n'est pas tout à fait habituel. Dans la majorité des cas, ce sont des sociétés qui exercent leurs activités en Bohême ou qui ont été créées en Bohême. Néanmoins, nous organisons par exemple la Journée britannique dont le sponsor était pendant de longues années la banque HSBC. Et au printemps, nous organisons la Journée française où il y a beaucoup de partenaires français qui sont présents.
Est-ce que vous avez beaucoup de contacts avec les sociétés françaises ?
Nous sommes membres de la Chambre de commerce franco-tchèque, siégeant à Prague, donc surtout au niveau gastronomie et boisson, nous essayons d'avoir le plus de contacts possible.
Et si vous devez comparer le nombre de visiteurs en ces dernières années, est-ce qu'il a augmenté ?
D'un point de vue général, la Bohême n'est pas vraiment un pays où les événements sportifs comptent de nombreux spectateurs. Pour nos footballeurs, 60 000 spectateurs est certainement déjà un rêve. Les courses hippiques sont fréquentées par 5 000 personnes, ce qui est correct, convenable, je pense.
C'était le directeur de l'hippodrome de Velká Chuchle, Petr Drahoš. L'agence Hellas a organisé de nombreuses activités très intéressantes, non seulement dans les salons VIP situés au quatrième étage de la tribune, mais aussi sur tout l'hippodrome. À titre d'exemple, il y avait une présentation de nouveaux modèles des voitures Renault, un spectacle de majorettes et des membres du ballet Globa qui a eu lieu en face de la tribune. Au quatrième étage, il y avait l'exposition des tableaux de Helena Leistner-Kloftova, Venice Infinity, une dégustation de cigares Davidoff, de Tate Shelton, de vin de Znovinsnoimo, société par action, et bien d'autres activités encore. Il est à noter que la société Znovinsnoimo, producteur entre autres de vins secs et demi-secs, a été la première en République tchèque qui a su souligner l'origine et le terroir de ses vins. Le siège de la société, qui organise aussi des dégustations régulières, se trouve à Chatov, en Moravie du Sud, à 6 km de Znojmo, ville renommée également pour la viticulture, l'industrie fruitière et les cornichons dans une délicieuse saumure aigre douce.
Dobrý den, ráda bych pozdravila všechny posluchače Rádia Praha 7.
Bonjour, j'aimerais saluer tous les auditeurs de Radio Prague. Je vous remercie de votre intérêt pour notre concours hippique, le 88e prix Renault Saint-Venceslas, journée de course Znovinsnoimo, qui fait partie du cycle des activités du club social de Hellas New Encounters Club, que j'ai fondé il y a 12 ans et dans le cadre duquel nous réunissons des personnes intéressantes du monde du commerce, de la culture, et nous préparons pour eux des activités intéressantes sur le plan culturel, social et sportif. Une des activités est justement la course hippique Saint-Venceslas. Au mois d'avril, c'était l'ouverture de la saison hippique par la journée britannique, le British Racing Green Day, ensuite le festival d'orgue d'été et d'hiver, organisé dans le cloître de Saint-Jacques, puis le tournoi de golf British Golf Cup, qui a toujours lieu au mois de septembre à Telč.
Dans le cadre du 88e prix Renault Saint-Venceslas, Zdeněk Marler Jr. a présenté son cinquième livre intitulé « Hommage aux chevaux ». C'est l'auteur lui-même qui nous explique ce qui l'a amené à écrire ce livre.
Certainement mon amour séculaire des chevaux, parce que moi-même j'étais éleveur et cavalier. En même temps, je sentais qu'il fallait faire quelque chose pour les chevaux à cette époque moderne, c'est-à-dire souligner leur rôle afin que l'importance du cheval dans l'histoire de l'humanité soit appréciée non seulement par les amateurs de chevaux, mais aussi par le grand public.
Est-ce que vous pourriez un peu me parler du contenu de ce livre ?
Le
livre contient 40 chapitres dans lesquels j'ai décrit le trajet commun de l'homme et du cheval, commençant par leur familiarisation, passant par les moments importants de l'histoire jusqu'au temps présent. En fait, c'est un remerciement aux chevaux pour avoir accompagné l'homme jusqu'à nos jours et pour les avoir aidés à acquérir tout ce que l'homme a atteint grâce à eux.
Le monde équestre a été un peu oublié au cours des 40 années du régime totalitaire. Est-ce que vous pensez que ça a changé ces dernières années ?
Certainement oui, mais cela a été dû au fait que le cheval n'a pas beaucoup été favorisé, aussi à cause de la situation économique générale. Après la révolution de velours en 1989, les choses ont changé, on peut dire, qu'au cours de cette période, le nombre de chevaux a triplé en République tchèque, surtout grâce aux éleveurs privés.
C'était l'auteur du livre « Hommage aux chevaux » Zdeněk Mahler. L'émission de Radio Prague en langue française se termine. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et nous sommes toujours prêts à recevoir vos idées, remarques et suggestions.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.